Bonjour, je retrouve Claudine. Vous
Bonjour.
Êtes membre de l'association SOS Méditerranée, vous êtes bénévole. Donc expliquez-nous votre rôle dans l'association.
Alors, l'association SOS Méditerranée en France a 650 bénévoles. À Marseille, nous sommes 180 et notre mission, c'est le témoignage. Donc on peut témoigner de différentes façons. En fait, c'est partager l'expérience de sauvetage sur le bateau avec différents publics. Donc moi, ma mission, c'est essentiellement de partager avec les élèves et les étudiants. Voilà, comme aujourd'hui ici au lycée Thiers.
Parfait. Et du coup, Morgane, vous êtes salariée. Quel est votre rôle dans l'association, du coup ?
Alors, moi, je suis chargée de communication numérique, donc au siège de l'association à Marseille. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle la chargée de communication à bord de l'Ocean Viking, qui est notre navire de sauvetage, il y a un an. Et donc ça, ce rôle-là, il est assez, on va dire, important, parce que c'est lui qui va relayer toutes les informations du bateau, qui proviennent du bateau, à terre. Et alors, SOS Méditerranée, il est présent en France, on est présent en France, mais on est aussi en Italie, en Suisse et en Allemagne. Donc, ce navire, en fait, il est financé par des citoyens, comme vous et moi, et on part en mer faire des missions de sauvetage. Et le but du chargé de communication à bord, en fait, c'est de relayer tout ce qui va se passer sur ce bateau à terre. Et donc d'en informer, puisque la Méditerranée centrale, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Non. Ben voilà, c'est quand même une zone assez particulière. Il s'y passe des drames, comme vous avez pu l'entendre. Et le but, c'est d'en informer en temps réel tout ce qui s'y passe.
Merci. Et donc, du coup, je vous pose la question, je pense que vous pouvez répondre l'une après l'autre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans cette association ou d'en faire partie ?
Eh bien, moi, en fait, j'ai un petit peu voyagé pas mal en dehors de la France. Et disons que j'ai eu l'opportunité un peu de voir... différentes situations et de se rendre compte que les personnes en fait font les choix de partir de chez elles pour beaucoup de raisons, on va dire, différentes, et que au final on n'est pas à même de juger en fait ces raisons-là. Mais par contre, quand on apprend ce qui se passe aux portes de l'Europe, je trouvais que c'était très pertinent de pouvoir participer de manière citoyenne, on va dire, même si aujourd'hui je suis salariée. Il y a énormément de bénévoles qui le font, donc de manière bénévole. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de apporter un peu ma pierre à l'édifice, en tout cas du côté de la solidarité. Et en mer, je trouve qu'il y a vraiment aussi une notion de solidarité des gens de mer, c'est-à-dire qu'on va porter secours à toute personne sans condition. On ne va pas vouloir vous demander vous êtes d'où, est-ce que vous avez vos papiers, vous avez quel âge. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est le côté humanitaire aussi de on va sauver, on va porter secours à une personne sans savoir d'où elle provient, pourquoi elle est là où elle est, etc.
Claudine, pourquoi vous avez eu envie de faire partie de l'association ?
Alors c'est un peu à la fois des hasards et des raisons personnelles. Je suis arrivée à Marseille il y a 4 ans, à Marseille il y a la mer, et j'ai entendu un peu par hasard des lectures, puisqu'il y a des bénévoles de SOS Méditerranée qui font des lectures de témoignages recueillis sur le bateau. Et ces lectures m'ont beaucoup marquée, et surtout ont fait écho à des situations personnelles, puisque j'ai des beaux-parents qui ont dû traverser l'Europe au moment de la guerre, et que j'ai une belle-fille qui est malienne, et qui aussi, voilà. Donc c'est résonance, et je me suis dit que cette cause était vraiment très très importante. Je suis aussi sensible au monde des marins et à cette solidarité maritime. Voilà.
Merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous pensez qu'avec les moyens de l'association aujourd'hui, vous êtes assez équipé pour porter le secours nécessaire aux personnes en mer, perdues justement ?
C'est difficile de se prétendre à la hauteur pour pouvoir répondre à toutes les situations de détresse en mer. On a un navire, donc déjà, on est limité, on va dire, à ce niveau-là, en fait. On peut pas c'est 14 000 euros par jour pour pouvoir affréter ce navire. Alors l'affrètement, ça veut dire qu'on loue, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire, on affrète le navire. Donc ça aussi, c'est ce qui explique le coût de 14 000 euros par jour. Pour autant, on est en mer depuis 5 ans et on peut dire qu'il y a quand même une expérience maritime qui s'est faite petit à petit. Et donc aujourd'hui, je pense pas qu'on ait la prétention de dire on va pouvoir sauver toutes les personnes qui se noient en mer. Mais en tout cas, le but, c'est d'être le plus possible présent en mer pour pouvoir apporter notre aide quand on peut le faire. Malheureusement, parfois, et c'est arrivé, on arrive trop tard. Les personnes, on ne les trouve plus. Et ça arrive.
Vous avez parlé de coûts. C'est, en effet, ça coûte beaucoup et ce n'est pas que dans le bateau. Est-ce que vous voyez d'autres endroits où il faut apporter de l'argent au final?
Alors, quand on dit 14 000 euros pour le bateau, c'est 14 000 euros aussi pour faire vivre tout le monde. Hein. Le bateau, ça aussi intègre les salariés qui sont à terre, c'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner, il nous faut 14 000 euros par jour. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est depuis la création, ce sont essentiellement des citoyens qui contribuent à ces 14 000 euros par jour. Et c'est la grosse force de l'association, c'est qu'on est une association citoyenne et 80% de nos bénéfices viennent, enfin de notre budget vient de dons et en particulier de dons de particuliers qui ne sont pas forcément des grands dons. Il y a des dons qui peuvent être de 5 euros. On a à peu près 40 000 personnes qui contribuent régulièrement à alimenter les finances de SOS Méditerranée.
Est-ce que vous trouvez que l'existence en fait, d'un secours dans la mer Méditerranée, ça pousse à l'immigration?
Alors, c'est une question assez pertinente. Ça s'appelle l'appel d'air. C'est à partir du moment en fait, où on part du principe qu'il y ait des moyens en fait, de sauvetage, ça pousse les gens à partir. Alors, le souci de ça, en fait, c'est que ce n'est pas forcément vrai, puisque d'avoir été à bord, en fait, et de discuter avec les personnes à qui l'on porte secours, c'est là où on se rend compte pourquoi elles font ce choix de traverser. Et on se rend compte, en fait, que ces personnes-là, elles fuient un pays, et ce pays s'appelle la Libye. Et de ce qu'elles nous racontent, de toutes ces personnes qui décident de nous livrer un petit peu leurs histoires, y a un contexte extrêmement violent. Là-bas. Et en fait, ces personnes-là, elles décident pas du jour au lendemain en fait, de quitter leur pays et de prendre un navire, un petit canot, parce que quand je parle de canot et que je parle pas de navire, c'est justement pour faire la différence, c'est que c'est des bouts de caoutchouc qui sont d'une épaisseur de quelques millimètres, avec parfois des chambres à air pour faire office de gilet de sauvetage. Donc déjà, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ce que nous, on a l'habitude de voir, en fait. Et que pour qu'elles fassent ce choix-là de monter à bord, des fois avec des enfants, des fois c'est des femmes enceintes, tu te dis, elles doivent quand même être dans une situation de détresse assez, assez importante pour faire ce choix-là, de monter sur ces canaux-là. Et donc ça, c'est une première raison, donc c'est qu'elles fuient un danger qui est lié à l'endroit où elles sont, qui s'appelle la Libye. Elles fuient des viols, elles fuient des tortures, elles fuient... Ça, c'est des choses qu'on nous raconte. Et en fait, c'est pas juste prendre la mer pour traverser et se retrouver en Europe. Ces personnes-là décrivent aussi le fait qu'elles cherchaient à fuir un danger, et ce danger, il est en Libye. Donc, pour moi, c'est pas parce qu'il y a des sauvetages qui sont mis en place, ces personnes-là, des fois, ne sont même pas au courant, en fait. Hein. Elles cherchent juste à partir. Et il y en a nombreuses sont des personnes qui nous disent « Je préfère trouver la mort en mer qu'en Libye ».
Il y a aussi des personnes qui n'avaient pas du tout le projet d'aller en Europe en partant, puisqu'en fait, les gens ont l'habitude de passer d'un pays africain à l'autre pour travailler, et surtout, il y a une tradition d'aller en Libye pour trouver du travail. Et à un moment donné, la situation, comme le dit Morgane, est tellement insupportable qu'ils partent alors que ce n'était pas leur projet initial.
Et c'est du coup, c'est une question de vie ou de mort.
Absolument.
Aujourd'hui, on est dans un contexte de campagne présidentielle où on a un candidat à la présidentielle du coup, qui veut arrêter l'immigration et réduire l'immigration à zéro. Est-ce que vous pensez que vous devrez cesser vos actions s'il est élu?
C'est pas le but.
Je crois qu'en fait, notre force, c'est qu'on s'inscrit dans le cadre du droit maritime international qui dit que on doit porter secours aux gens en détresse en mer. Donc nous sommes dans un cadre, et Morgane peut en parler, parce que sur le bateau, on relaie sans arrêt les informations pour prouver qu'on est toujours dans le cadre. Donc on est dans un cadre juridique. Après, la seule question qui peut se poser, c'est si à un moment donné, les ports sont fermés, ce qui a déjà été le cas lorsque l'extrême droite était au pouvoir en Italie. On a fermé les ports, ça c'est plus compliqué. Mais de toute façon, les gens continueront à partir.
Mais comment vous faites dans ces moments où les ports sont fermés, par exemple? Qu'est-ce que vous essayez de...
Alors, En fait, ça fait aussi partie du droit maritime. Donc, on doit porter secours à toute personne en détresse en mer, mais ça implique aussi de les ramener en lieu sûr. Aujourd'hui, on nous dit le lieu, parfois, c'est de les ramener en Libye. Et là, on l'explique, parce qu'il y a différents textes, c'est pas que nous qui le disons, hein, c'est les Nations Unies, etc., qui préconisent que, en fait, la Libye n'est pas un lieu sûr par rapport au contexte qui est celui qui est à l'heure actuelle, c'est-à-dire guerre civile, viol, torture au quotidien. Donc ce pays n'est pas considéré comme un lieu sûr, donc c'est à nous de voir... c'est pas nous qui prenons la décision de ramener les personnes, en fait, et qui choisissons le lieu où on va les ramener. Là aussi, c'est les autorités en fait, maritimes qui nous disent, on vous demande de les débarquer à tel endroit. Et là, voilà, c'est là où parfois ça peut prendre du temps, en fait. Parfois, c'est 4 jours, parfois c'est une semaine, parfois c'en est 2. Et il faut se rappeler que ces personnes-là, elles ont quand même eu un parcours très éprouvant. Certaines d'entre elles sont blessées de balles, par torture, etc. Et là, on leur demande d'attendre encore plus, des jours et des jours, à bord d'un navire. Alors certes, sur ce navire, déjà, elles ont une once de sécurité et de refuge pour pouvoir ne serait-ce que se reposer, reprendre des forces, dormir, manger, boire. Mais en attendant, il faut pouvoir les débarquer. Et ça, malheureusement, ça peut prendre du temps. Et c'est comme l'expliquait Claudine, c'est arrivé de temps en temps, régulièrement même, sur une certaine période, d'attendre des périodes assez, assez longues. Mais dans tous les cas, on doit pouvoir les débarquer, c'est ce qui arrive à chaque fois. On finit par les débarquer dans un lieu sûr. Et jamais en Libye.
En parlant de ports fermés, donc il y a une fois, sur notre précédent bateau, l'Aquarius, où en fait, il a été impossible de débarquer en Italie. Donc on a dû aller débarquer en Espagne, à Valence. Et il y avait 600 personnes à bord. Et donc ça a pris un temps très important. Et surtout, on a dû être accompagnés par des bateaux militaires parce que nous ne pouvions pas, en sécurité, traverser toute la Méditerranée. Donc ça, c'est arrivé une fois, mais ça pourrait... arriver à nouveau.
Et là, pour te donner un exemple très concret, l'Ocean Viking était en mer la semaine dernière. Nous avons fait un sauvetage d'environ 200 personnes. Pardon. Donc c'était le sauvetage du 24 et le sauvetage du 25 mars. Ces personnes, on a pu les débarquer à Augusta, donc en Sicile. Mmh. Et ça, c'est les autorités du pays qui nous ont dit, à peu près une semaine après les sauvetages, voilà, on vous donne l'autorisation de débarquer à tel endroit. Mais on n'ira jamais, en fait, sans qu'on nous donne l'autorisation. C'est important de le préciser parce que ça aussi, c'est en respect du droit. Et on n'y va pas comme ça juste parce qu'on a décidé. Non, on attend que les autorités nous donnent la possibilité de le faire.
Et justement, du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, pour montrer que vous respectez ce droit, vous faites de la communication en fait, avec la terre ferme. Vous avez toutes les deux des rôles qui sont liés à la communication. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est important de diffuser au maximum les témoignages ou les actions de SOS Méditerranée ?
Ça fait partie de la mission de témoignage, mais je vais laisser Claudine en parler.
Oui, donc en fait, depuis le début, il y a toujours des journalistes à bord, parce que témoigner, nous avons trois missions, sauver, protéger et témoigner. Et témoigner, c'est une mission aussi importante que les deux premières, puisqu'il est important de faire savoir. Si nous ne relayons pas ces informations, eh bien, les gens oublieraient que d'autres personnes sont en train de mourir en mer. Donc cette mission-là, elle est vraiment fondamentale. Et dans le témoignage, il n'y a pas seulement le fait de partager une information, mais il y a le fait que ces gens qui vont recevoir cette information vont eux-mêmes pouvoir la partager. Et on a aussi un axe important qui est notre comité de soutien. Nous avons... une centaine de personnes de tous horizons qui en fait portent notre message, qui sont des écrivains, des chanteurs, des journalistes, des intellectuels, et qui dans leur vie quotidienne partagent. Par exemple, Gaël Faye, quand il fait un concert, il parle toujours de nous et il dit toujours que c'est important de nous soutenir. Il y a des écrivains comme Laurent Godet ou Daniel Pénac qui font aussi, parlent de nous lorsqu'ils sont interviewés. Donc tous ces relais différents sont vraiment fondamentaux pour remplir cette mission de témoignage.
Merci beaucoup SOS Méditerranée d'être venu et d'avoir répondu présent à notre appel. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.